Voilà, donc nous allons reprendre pour la deuxième partie de la matinée. Alors, l'ensemble des questions que vous ne manquerez pas de poser, ce sera pour cet après-midi, lors de la table ronde, à l'issue de la table ronde. Donc là, ce matin, nous continuons donc sur deux présentations donc, un peu formelles. Et en premier lieu, donc avec le docteur Christophe Schmitt, donc, qui est président de la CME et responsable des DIM, des CH de Jury et de Lorquin, qui va nous présenter les travaux de la mission Véran.
Bien, bonjour. Alors, voilà, c'est bon. Donc mon propos va être court, c'est simplement pour pouvoir alimenter la réflexion concernant les travaux sur le financement de la psychiatrie. En sachant que finalement déjà Monsieur Kurt ce matin a fait allusion au rapport et même développé un certain nombre de choses qui sont contenues dans le rapport de la mission Véran. Alors je pense qu'un des gros points, alors ma lecture est forcément un peu subjective quand même, donc j'ai mis peut-être en exergue des choses que d'autres n'auraient pas mis en exergue. Mais donc c'est vrai que je trouvais que c'était intéressant, parce que c'est beaucoup insisté dans ce rapport sur la nécessité de prendre en compte les effets négatifs de la T2A, c'est rappelé plusieurs fois dans le texte du rapport, que les établissements de santé n'ont pas vocation à être rentables. Et je trouve, bon, c'est quand même bien que ça soit rappelé de temps en temps, et c'est rappelé vraiment avec force dans le rapport, et que leur mission première, c'est de délivrer des soins de qualité, ce à quoi je pense qu'on ne peut que être d'accord. Et que le risque de la T2A, c'est de privilégier indûment la dimension financière et que la politique hospitalière donc ne doit pas être indexée sur la seule appréciation de la performance économique. Là encore, c'est des rappels qui sont quand même importants dans un rapport officiel. Et que la T2A doit rester un outil technique de répartition de l'enveloppe hospitalière. Donc, dans la logique, donc voilà, de ce rapport, c'est de lever les inquiétudes légitimes que suscite la T2A. Donc, c'est de nouveau marteler, d'abord bien soigner, ensuite veiller à la bonne utilisation des ressources consacrées aux soins. Donc on est à chaque fois dans cette idée de la qualité, la qualité des soins, du fait de soigner, et que les mesures de la qualité des soins doivent devenir l'axe autour duquel s'organise la régulation et la gestion des établissements de santé. Chose qu'on peut tout à fait reprendre, enfin, là c'était la partie introductive plutôt centrée sur le MCO, mais en définitive je pense qu'on peut tout à fait reprendre ces aspects-là au compte des établissements de psychiatrie. Donc, refonder la politique de la mesure de qualité, là, il y a tout un chapitre sur cette partie-là, donc développer de nouvelles mesures de la qualité des soins, en partant du recueil de l'expérience des patients, du recueil de l'expérience des soignants, et de mettre au point des indicateurs cliniques de qualité fondés sur les résultats. Donc là aussi, c'est des choses assez, assez fortes en termes de propositions. Et donc du coup déboucher sur un nouveau modèle qui associerait plusieurs modes de rémunération, donc en gardant le paiement à l'activité la T2A, mais en introduisant également ce que la mission Véran appelle un paiement intégré pour rendre compte de la complexité des parcours des patients atteints de maladies chroniques. Donc là, ça écho aussi avec nos préoccupations de tout à l'heure, avec une transition progressive. Là encore, on a parlé tout à l'heure aussi de transition progressive avec l'exposé de Louis, avec de la T2A pour les séjours ponctuels et simples, du financement à l'épisode de soins pour les actes lourds ou les soins aigus, et puis du financement au parcours pour les pathologies chroniques. Bon, là, je vous renvoie au rapport, parce que là, c'est vraiment un résumé, mais c'est quand même un des axes assez importants, dans lequel encore, là, je rappellerai dans la conclusion, finalement, on peut aussi nous s'y retrouver, en particulier pour ce qui est des patients chroniques. Il y a aussi une grande partie dans le rapport sur l'investissement dans la recherche et dans à la fois la recherche interventionnelle et aussi l'innovation organisationnelle, en rappelant que Et ça aussi, c'est une préoccupation. Ben, finalement, tout à l'heure, on l'a partagé, savoir que les modalités de financement doivent encourager et non pas empêcher les innovations. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, que l'on soit en T2A ou que l'on soit en DAF, la place pour l'innovation est un peu compliquée à trouver dans ces modalités de financement. Donc là, je vous ai vraiment résumé la partie, donc c'est vraiment un archi-résumé, parce que le rapport fait quand même plus de 100 pages, sur la partie plus consacrée à l'activité MCO, et donc du coup, la psychiatrie dans tout ça. Un certain nombre de gens étaient finalement un peu frustrés parce que trouvaient que la part consacrée à la psychiatrie santé mentale était finalement relativement peu importante dans le rapport. C'est effectivement la partie, ça doit être une petite quinzaine de pages, quoi, voire un peu moins. Mais je pense aussi, et là Monsieur Kurt l'a expliqué aussi ce matin, on voit bien les difficultés à l'heure actuelle qu'ont les pouvoirs publics avec la psychiatrie, son financement, la description de son activité depuis plusieurs années. Alors, le constat, il est assez sévère, hein, dans le rapport, c'est-à-dire que, là, c'est plus les éléments sévères, ça va venir dans les diapos suivantes. Bon, le constat, c'est, ça on est tous d'accord aussi là-dessus, que la psychiatrie, la santé mentale sont un axe majeur de notre système de soins. Hein, donc, en 2014, c'était 2,1 millions de patients pris en charge, dont 20% en hospitalisation. Donc ça, c'est quand même toujours bon de le rappeler. Mais qu'il y a de nombreuses difficultés qui sont, en tout cas dans le rapport, qui sont ciblées, c'est la question de l'accès aux soins, la question de la problématique de non-recours, bon, qui se finalement est assez conjointe avec la difficulté d'accès aux soins, et les inégalités de financement entre et dans les régions. Avec des règles tarifaires qui sont multiples, hein, donc là ça a aussi été rappelé, la dotation annuelle de financement pour les établissements publics et les ESPIC, mais aussi de la T2A pour un certain nombre d'activités. Je prends l'exemple de la dictologie qui peut être financée parfois dans les DAF, parfois sous la forme de tarification à l'activité. Donc en 2015, hein, bon, là, Monsieur Kurt a cité les chiffres de 2016, bon, mais là, si je vous reprends les chiffres du rapport, en 2015, c'était donc 8,7 milliards pour la DAF, mais également 884 millions pour les CMD 19 et 20. La CMD 19, je rappelle pour ceux qui sont pas familiers, c'est les maladies, les troubles mentaux, et la CMD 20, c'est les troubles mentaux liés à l'absorption de drogue. Les tarifs journaliers pour les prises pour les cliniques privées, ça représente 686 millions, donc ça représente finalement moins que la part T2A hein, dans les CMD 19 et 20. C'est 26% des prises en charge en hospitalisation. Alors c'est vrai que là, c'est la vision clinique privée OQN, hein, ça ne résume pas l'offre de psychiatrie en libéral, on est bien d'accord. Puisque là, il y a tout l'aspect de... Et là encore, dans les OQN, on sait bien que le financement des OQN, il y a un certain nombre d'aspects qui ne sont pas pris en charge, hein, stricto sensu, dans le prix de journée hein, des établissements privés. On a dit, hein, le financement, il est inégal. Inégalité selon les régions, disparité intra-régionale, ce qui aboutit aux péréquations qui ont été mises en place par certaines ARS, mais qui clairement ne sont pas suffisantes, puisque les péréquations en fonction des régions existent depuis 2, 3 ans, 4 ans, on sait bien que ça n'est pas suffisant pour réduire les inégalités. Alors là aussi, ça c'est dans le rapport, hein, c'est un financement inégal qui induit des phénomènes de file d'attente. C'est-à-dire que là, dans le rapport, il y a un lien, je n'en revendique pas la paternité. Hein. En tout cas, le constat, c'est que c'est vrai que 11% des dépenses de santé totales sont consacrées à la psychiatrie, ce qui nous place au même niveau que l'Allemagne, un petit peu derrière l'Angleterre, mais devant l'Italie, enfin... Donc, franchement, sur le plan des dépenses, on est dans une certaine norme. Et pourtant, il semblerait que ça ne soit pas efficient. Donc, en gros, on dépense des sous, mais on les utilise mal. Enfin, je fais... Alors, il corrige cette idée que les inégalités de financement, donc, induiraient des phénomènes de file d'attente, mais en citant aussi dans le rapport que c'est aussi lié au manque de solutions d'aval, résultant en partie du cloisonnement des financements hospitaliers et médico-sociaux. Et là, dans le rapport, il y a une longue description sur d'expliciter le financement des établissements médico-sociaux, en particulier les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisés, expliquant les subtilités, effectivement, de ces tarifications, et plaidant d'ailleurs pour la reconversion, enfin en tout cas la transformation pour les pathologies les plus chroniques, de finalement faire basculer une partie des DAF dans du financement médico-social dans le cadre des maisons d'accueil spécialisées, puisque c'est des financements finalement assez homologues, et qu'en tout cas il n'y a pas de part sociale dans les maisons d'accueil spécialisées. Et puis, bon, il souligne aussi que les phénomènes de file d'attente sont aussi en lien avec les problèmes de démographie médicale, mais aussi des autres professions de santé. Et là encore, il y a aussi des inégalités, et là qui ne sont pas dues aux dotations annuelles de financement. Il y a des inégalités de répartition, que ce soit parmi les psychiatres, mais aussi dans les autres professions, donc qui peuvent aussi poser un certain nombre de difficultés aux établissements. Alors, les spécificités de la psychiatrie, voilà ce que liste le rapport Véran, c'est d'abord et avant tout l'absence de standardisation des soins. Donc là je disais que c'est sévère, hein, c'est évaluation quasi inexistante, dissensus sur les bonnes pratiques, difficulté des différents intervenants de collaborer, et là encore il y a un lien qui expliquerait la durée moyenne d'hospitalisation largement supérieure au MCO. Donc là, c'est pour ça que je disais que quand même assez sévère pour la psychiatrie, auquel s'ajoute la collaboration insuffisante entre les acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Cette absence de standardisation des soins, ça revient plusieurs fois dans le rapport, mais vous avez entendu M. Kurnes ce matin, il en a aussi parlé. Donc c'est quelque chose qui est vraiment au cœur des préoccupations à l'heure actuelle des pouvoirs publics, en même temps sachant qu'à un moment donné, il y avait eu un travail là, à peu près d'ailleurs au même moment où les travaux de la VAP se sont arrêtés, les travaux pour justement redéfinir le CMP, le CATTP, l'hôpital de jour, se sont arrêtés aussi également. Donc c'est peut-être pas obligatoirement la faute uniquement des acteurs, mais il y a peut-être aussi une responsabilité multiple à différents niveaux, hein, et peut-être une absence de volonté politique à un moment donné de mieux décrire, et de, c'est-à-dire que la standardisation, on peut s'en emparer, mais enfin il faut que ça s'organise dans un tout beaucoup plus vaste. Alors quelles sont les propositions de la mission Véran concernant le financement de la psychiatrie? D'abord, donc là, je vous renvoie au thème d'hier, hein, donc finalement, on a une certaine cohérence dans le déroulé de ces journées, c'est la question de la territorialisation, hein, comme réponse aux enjeux actuels de la psychiatrie. Et puis, dans des choses plus pratiques, c'est la proposition d'une modulation des dotations annuelles de financement à la population et aux soins réalisés de la dotation globale. Voilà, donc c'est vraiment la proposition, bon, finalement, de reprendre et continuer les travaux sur les péréquations qui sont à l'heure actuelle faites, et puis poursuivre les travaux en vue d'affiner les typologies de prise en charge à distinguer dans le champ de la santé mentale. C'est vraiment le triptyque, hein, qui est proposé dans ce rapport. Donc là, je vais un peu détailler rapidement. Donc la territorialisation en réponse aux enjeux actuels, donc compléter la sectorisation par une structure de coordination dans le cadre du projet territorial de santé mentale. Bon, entre-temps, il y a le décret sur le projet territorial de santé mentale qui est sorti, avec quand même une question, une interrogation. Je pense que là, peut-être ça sera intéressant d'en débattre cet après-midi, c'est la dimension à donner à ce territoire. Hier, on n'en a pas non plus parlé de la dimension. Quelle est la bonne dimension? Est-ce que c'est finalement si on revient dans l'histoire, on avait le secteur de 70 000 habitants, et puis après, avec les évolutions démographiques, choses comme ça, on s'est aperçu qu'il y avait des secteurs qui avaient 50 000 et d'autres qui en avaient 100 000, voire beaucoup plus d'habitants, avec des difficultés qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il est pertinent d'avoir, de dire, bah voilà, le territoire, c'est, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, c'est 300 000 habitants, et que ça soit partout la même chose en France, ou au contraire, est-ce que en fonction justement des particularités des territoires, peut-être qu'on peut pas envisager les choses de la même manière dans la Creuse ou dans le 20e arrondissement à Paris. Voilà. Donc peut-être aussi qu'il y a toute une dimension à nourrir sur ce territoire. La modulation à la population et aux soins. Donc là encore, on voit bien dans le discours de Monsieur Kurt ce matin, enfin, combien des éléments du rapport de la mission Perron ont été repris. Hein. Donc, sans approche standardisée des soins, des prises en charge, on ne peut envisager une réforme globale du modèle de financement. Et donc, du coup, dotation modulée à la population et soins réalisés pour financer les coûts fixes. Donc la proposition de la mission Véran est en disant, bon, voilà, les coûts fixes représentent 80%, donc on finance avec cette dotation qui est modulée par des critères de population. La part modulable, donc les 20% restants, c'est à l'activité et aux besoins épidémiologiques de la population. Voilà, ça c'est la proposition qui est faite dans le rapport. Dernier point, affiner les typologies de prise en charge. Donc là, finalement, on rejoint les propositions de l'ADESM de tout à l'heure, hein, où il serait possible de financer de manière distincte les différentes missions de la psychiatrie, hein, psychiatrie de secteur, psychiatrie d'urgence, psychiatrie sans consentement, précarité, détenus. La liste n'est pas exhaustive, donc là, c'est améliorer le descriptif des prises en charge, ce qui nécessite à la fois une exhaustivité du système d'information et une enquête de coûts en complément, et également de mettre au point une typologie des traitements ambulatoires. Voilà, donc là, voilà les trois points détaillés des propositions de la mission Véran concernant notre discipline. Avant de conclure, je vous fais un petit point sur... Parce qu'il y a aussi un chapitre sur la précarité. Et je pense que la précarité, vraiment, c'est quelque chose où dans notre discipline, on est particulièrement concerné. C'est vrai que la précarité est à l'origine de surcoût, hein, c'est pas la même chose de s'occuper d'un patient qui vit en situation de précarité, ne serait-ce que par l'allongement, parfois de la durée d'hospitalisation, simplement parce qu'il faut trouver un logement, par exemple, à l'heure actuelle, donc il y a des financements, mais là je parle pour le MCO, hein, qui sont dans le cadre de MIG et également dans le cadre des PASS. Donc voilà encore la proposition du rapport Véran, c'est de tester des indices écologiques de défavorisation sociale pour aboutir à un profil social d'établissement. Et donc du coup chaque établissement se verrait, en fonction de son profil social, avoir un coefficient social sur toute ou partie de son activité. Donc ça c'est valable pour tous les établissements de santé, hein, ce chapitre sur la précarité. Donc je dirais en conclusion, voilà, pas de vraie révolution, hein, contenue dans ce rapport. Moi je trouve que ça conforte d'une certaine manière le principe de péréquation des DAF qui a été initié par les ARS. Reste qu'il faudrait peut-être que sur ces péréquations on ait une harmonisation. Parce que, bon, on l'a fait remarquer tout à l'heure, hein, voilà pourquoi dans certaines régions c'est 20% pour l'activité ou dans d'autres 40%, et sur quels critères, etc. Donc là, il y a quand même nécessité d'avoir un certain nombre d'éclaircissements. Et puis, je trouvais aussi que les pistes qui ont été évoquées pour le MCO ne sont pas évoquées pour la psychiatrie, c'est-à-dire que le financement au parcours, le financement à l'épisode de soins peuvent être des modalités, en tout cas peut-être pas pour toutes nos activités, bien évidemment, mais en tout cas pourrait très bien aussi se décliner et s'appliquer. Alors, dernier point, donc là dont j'ai pas parlé dans le rapport, c'est que c'est vrai qu'il fait une part. On dit que si on évolue dans un modèle de financement, il faut que cette évolution soit quelque part aussi une innovation, Hein, donc du coup, il plaide dans le rapport Véran et plaider l'idée de que l'innovation organisationnelle et l'innovation finalement financière, ça peut être aussi des initiatives qui peuvent être soutenues et puis après qui peuvent être dispersées ou disséminées dans les autres établissements. Voilà, je vous remercie.